Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse aux 10 hauts lieux de la préhistoire dans le monde. Au cours de 3 émissions, nous avons demandé au professeur de Lumley, directeur de l'Institut de paléontologie humaine, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences, quels étaient les endroits riches d'informations pour les paléontologues et pour l'enrichissement des connaissances. Il a accepté notre invitation et est dans le studio de Canal Académie. Henri de Lumley, bonjour.
Bonjour madame.
Les 10 lieux que vous avez sélectionnés vont nous permettre d'une part d'évoquer les principaux sites préhistoriques, mais aussi d'avancer au cours du temps pour s'intéresser à la fois à l'évolution morphologique et culturelle de l'homme. Dans cette première émission, nous partirons en Géorgie, en Espagne, mais commençons notre voyage en Afrique, terre qui a vu naître les hominidés. Nous partons à Fétjez, en Éthiopie. Alors, la région de Fétjez, dans le bassin de l'Homo Turkana, est une région que vous connaissez bien, professeur de Lumley, puisque c'est vous qui avez dirigé les fouilles sur place de 92 à 99. En quoi ce site est-il intéressant pour les paléontologues, Henri de Lumley ?
Oui, bien madame, vous m'avez demandé de choisir 10 sites parmi les plus importants sur la préhistoire, 10 sites phares. Mais c'est bien difficile à choisir 10 sites phares, il y en a tellement. Oh, c'est un peu artificiel mon choix. Et j'ai essayé de vous en proposer de différentes périodes de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'évolution de l'homme et de ses cultures, pour présenter les différentes étapes, les différents sauts culturels que l'homme a connus au cours de son histoire. Et en effet, je vous ai présenté le site de Fétjez, parce que c'est vrai que j'ai fait des fouilles. Vous venez de dire que j'ai commencé des fouilles il y a longtemps, que je les ai jusqu'en 1951. Donc je continue. Et je pars, vous voyez, vers le 5 février, je crois, je pars 2009. De nouveau sur le site de Fétjez. Et aller sur le site de Fétjez, c'est une grande aventure, parce que quand on est à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, il faut 3 jours de 4x4 pour arriver sur le site. Et quand on est sur le site, on est à 50 km du premier point d'eau. Et nous installons notre campement sur le site préhistorique et tous les 3 jours, tous les 2 jours, nous avons plusieurs 4x4 et avec une de nos 4x4, nous allons chercher de l'eau à 50 km de distance. Et cette eau est très précieuse parce qu'elle nous sert pour boire.
Bien sûr.
Elle nous sert pour faire la cuisine. Surtout pas pour se laver, car il faut garder l'eau pour laver la terre, pour trouver de toutes petites dents de rongeurs. Et alors on lave la terre et on extrait de cette terre des petits os, des petits éclats et des dents de rongeurs. C'est très important parce que les dents de rongeurs nous permettent de dater le site et de reconstituer l'environnement. Alors le site de Fétjez est un site exceptionnel. Il date de 2 millions d'années. Ce n'est pas le plus vieux site qui a livré des outils taillés actuellement. Le plus vieux site qui a livré des outils taillés est situé dans le nord-est de l'Éthiopie, dans la région du Kadagona, de la rivière Gona, et qui date de 2 550 000 ans. Mais à Gona, comme à Fétjez, on a à peu près les mêmes types d'outillage, les mêmes types d'industrie lithique. Et l'avantage exceptionnel du site de Fétjez, c'est d'avoir permis de fouiller un sol d'occupation sur une centaine de mètres carrés et de reconstituer le comportement et le mode de vie des tout premiers hommes. Alors je peux dire qu'on pourrait dire que les premiers hommes, c'est des Homo habilis. Ils apparaissent vers 2,5 millions d'années et ils avaient une mode de vie un peu spéciaux. Contrairement à leurs ancêtres, les Australopithèques, ils émergent, l'Homo habilis émerge au milieu d'un foisonnement de races, de phylums d'hominidés qui sont les Australopithèques. Les Homo habilis, par rapport aux Australopithèques, ils ont un cerveau un peu plus gros, volumineux, ils ont une capacité crânienne qui dépasse 600 cm3, ils sont peut-être un peu plus grands, ils marchent parfaitement debout, alors que les Australopithèques étaient encore occasionnellement arboricoles, et ils sont les premiers à fabriquer des outils. C'est sans doute aussi les premiers à avoir un langage articulé, car quand on étudie les caractéristiques anatomiques de leur crâne, on voit que toutes les conditions anatomiques pour l'existence d'un langage articulé sont réunies. On peut dire qu'avec Homo habilis, il y a 2,5 millions d'années, a débuté la grande aventure de l'homme, l'évolution culturelle, la grande aventure des hommes de la préhistoire avec l'acquisition du langage articulé et surtout l'invention de l'outil. Alors sur le site de Fétjez, situé à 800 km au sud d'Addis Abeba, à peine 5 km au nord de la frontière du Kenya, tout près du lac Turkana. D'ailleurs, c'est extraordinaire, quand on fouille ce soir, le soir, on s'assoit en revenant de fouiller au bord de notre campement et on voit le coucher du soleil sur le lac Turkana, le soleil, le ciel s'embrasse de toutes sortes de couleurs. C'est un endroit formidable. Mais la journée, c'est un peu dur parce que des fois, il fait 45 degrés à l'ombre.
Ah oui, donc c'est des conditions de travail très difficiles.
Et la nuit, la température baisse à 25 degrés, 30 degrés. On a l'impression d'avoir froid. Et là, ce site, on a pu fouiller sur une centaine de mètres carrés. Et là, on a pu mettre en évidence un campement de ces premiers hommes. Alors, on peut mettre en évidence comment il s'est installé. Il s'est installé au pied d'un petit bourrelet de sable, au bord, pas très loin sans doute, d'une petite rivière qui allait se jeter dans le fleuve Omo. Et ils allaient chercher des outils. Ils fabriquaient des outils. Et l'outil est une caractéristique de l'homme. C'est l'homme qui a fabriqué les premiers outils. Car les grands singes, on a dit parfois qu'ils avaient des outils, mais en fait, ces grands singes ont surtout des objets utilisés. Ils prennent une galette pour casser une noix. Mais l'outil s'inscrit dans une chaîne opératoire. Ces Homo habilis de Fedjes allaient chercher des pierres dans une rivière à quelques centaines de mètres. Il est transporté dans l'habitat. Mais les pierres, ils ne prenaient pas n'importe quoi. Ils faisaient de la pétrographie. Ils choisissaient des quartz plutôt que des basaltes ou plutôt que des granites. Ils choisissaient des pierres cubiques ou subparallélépipédiques pour avoir un méplat pour tailler plus facilement. Ils les ramenaient sur l'habitat et par une stratégie élaborée, ils fabriquaient les claques qu'ils avaient conçues à l'avance et ils réalisaient le modèle. Et l'outil témoigne que l'homme est capable de concevoir un modèle et de le réaliser. C'est l'émergence de la pensée conceptuelle qui est un propos de l'homme. Et puis, ils allaient alors que le singe, quand il prend un galet, il s'en sert immédiatement, ils avaient conçu cet outil en fonction d'un projet et ils allaient se servir de cet outil ailleurs, à un autre moment. Pourquoi ? Eh bien, pour récupérer de la viande. Car ces hommes, contrairement aux Ospitèques, deviennent des mangeurs de viande. Ils ne vivent plus simplement de consommer des racines, des fruits, des graminées, mais ils deviennent mangeurs de viande. Mais ce ne sont pas des chasseurs.
Et ils allaient des charognards.
C'est des charognards. Ils allaient au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord d'un étang, pour récupérer une charogne abandonnée par un grand carnivore. En effet, à cette époque-là, la forêt régresse. Les grands espaces découverts deviennent de plus en plus importants, des savanes, des prairies, d'où le développement des grands herbivores, en particulier des antilopes. S'il y a beaucoup de grands herbivores, les carnivores se développent. Le tigre aux dents de sabre, Homotherium crematidens, la panthère géante, Meganthereum meganthereum, et ils abattent les grands carnivores. Mais repus, ils les abandonnent. D'ailleurs, un tigre aux dents de sabre, quand canine, ne peut pas récupérer toute la viande sur une charogne. Et alors, quand ils abandonnent cette charogne, il y a deux prédateurs qui arrivent, qui sont en compétition pour avoir accès à la carcasse sur la s'il reste encore des petits bouts de viande. C'est la hyène géante, Pachycrocuta breviriensis, et un petit bonhomme, l'Homo habilis. Et tous les deux étaient en compétition pour avoir accès à la carcasse.
Alors j'imagine que sur ce site de Fedjes, on trouve beaucoup d'industrie lithique. Est-ce qu'on retrouve aussi des traces d'hommes, pour le coup, des squelettes ?
Oui, on a trouvé des restes humains, en particulier des dents d'Homo habilis, ce premier homme, qui était petite taille, qui est entre 1 m et 1 m 20 de haut, qui avait une capacité crânienne d'un peu plus de 600 cm3 en moyenne, mais chez qui toutes les conditions anatomiques pour l'existence d'un langage articulé étaient réunies et qui avait acquis une station érigibipède parfaite.
Alors, j'ai cru comprendre qu'un musée des origines de l'humanité était en construction dans la capitale
d'Éthiopie. Non, il n'est pas encore en construction, mais c'est l'endroit idéal dans le monde pour construire un musée sur l'origine de l'homme. D'ailleurs, ce musée s'appellera Musée des origines de l'homme. Il est financé par l'Europe. Et nous le construisons à Addis Abeba. Mais pour l'instant, on n'en est qu'à l'appel d'offres.
Alors avant que vous ne partiez au mois de février 2009 sur le site de Fedjes, avançons, si vous voulez bien, un peu dans le temps et dans l'espace. Nous sommes désormais aux frontières de l'Europe, en Géorgie, pour ce fameux deuxième haut lieu de la préhistoire. Où là, j'ai cru comprendre que l'anecdote est assez intéressante, puisque finalement, on tombe sur des restes préhistoriques, alors qu'au départ, c'était des archéologues qui faisaient des fouilles du domaine de l'archéologie médiévale.
C'est ça, vous avez tout à fait raison, mais vous connaissez bien l'historique des découvertes. En effet, nous avons des collègues géorgiens qui étaient des médiévistes et qui fouillaient un grand village, le site de Manissi, qui est situé à l'extrême sud de la Géorgie. Manissi, c'est un village abandonné depuis le Moyen-Âge. et qui est installé sur les pentes septentrionales du Petit Caucase. Vous savez, la Géorgie, c'est un couloir qui va de la mer Caspienne à l'est à la mer Noire à l'ouest, entre le Grand Caucase au nord et le Petit Caucase au sud. Et le Petit Caucase, c'est par la Géorgie de l'Arménie. Et sur les pentes septentrionales de Mi-Caucase, à 1000 mètres d'altitude, se trouve ce village de Manissi, qui est un village médiéval, qui a été construit au XIe siècle, qui s'est développé, qui a pris sa plus grande expansion au XIVe siècle. Et au XIVe siècle, Tamerlan, à la tête de la Horde d'Orde, l'a détruit. Et depuis le XIVe siècle, ce village est abandonné. Bon, il y a un autre village qui est de Manissi, plus récent, qui est à quelques kilomètres. Et récemment, il y a quelques années, nos collègues géorgiens, médiévistes, ont entrepris des fouilles dans ce village. Et vous savez que les archéologues adorent fouiller les poubelles. Et ils ont fouillé une espèce de cave sous une de ces maisons qui était remplie d'ossements, de poteries. Et un jour, nos collègues médiévistes géorgiens ont trouvé une mandibule de rhinocéros, quelques grands éclats de quartzite taillés. Ils les ont montrés à nos collègues préhistoriens qui ont dit « mais ça, c'est pas médiéval, c'est forcément très ancien ». Et ils se sont aperçus que ces caves avaient été creusées dans des terrains plus anciens qui dataient de quelques centaines de milliers d'années. Depuis, on sait très bien que ça date de 1 800 000 ans. En effet, sur le site de Massy, il y a à la base une coulée volcanique, un volcan qui a déversé des laves, qui date de 1 500 000 ans. Par-dessus cette couche de lave, il y a des cendres projetées par un volcan qui ont été datées de 1 810 000 ans. Et ce sont des cendres volcaniques qui ont été trouvées des restes humains. Et aujourd'hui, nous avons à Manissi 5 crânes humains, 4 mandibules, et de nombreux restes du squelette pancéphalique. Et ces hommes sont très proches des Homo habilis. Ils sont un peu plus évolués. Et mon épouse, Marie de Lomelet, qui les a étudiés, les a appelés Homo géorgicus. Et cette découverte est extrêmement intéressante car Manissi, on peut dire, est aux portes de l'Europe, aux portes de l'Asie et montre que l'homme a quitté le berceau de l'humanité à une époque très ancienne. Alors nous savons aujourd'hui que les hommes fabricants d'outils, je viens de vous le dire tout à l'heure en parlant de Fedjes, taillent des outils depuis 2 500 000 ans, mais dès 2 millions d'années, ils ont quitté le berceau africain de l'humanité. Aujourd'hui, on connaît un site qui est situé en Palestine, près d'Haïfa, en Israël, qui date d'un peu plus de 2 millions d'années, puisque des outils en quartz ont été trouvés sous une coulée de basalte qui date de 2 millions d'années. Mais surtout, alors un site extraordinaire, c'est le site de Manissi, qui a été daté par une méthode physique, par la méthode où on compare le potassium radioactif et l'argon radiogénique, de 1 810 000 ans. Alors ces hommes de Manissi avaient été porteurs d'une culture d'outils lithiques très proche de ceux de Fedjes ou très proche de ceux de Gona. C'est la même industrie et j'appelle ces industries très archaïques le Preldo-Wayen. Elles sont constituées surtout de galets aménagés, c'est-à-dire de galets sur lesquels une arête tranchante a été aménagée par des Allemands sur une seule face, plus rarement sur les deux faces, des chopeurs, des chopping tools. C'est des outils massifs avec un tranchant qui devait servir à désarticuler les carcasses de grands herbivores. Et puis le but aussi, c'était d'avoir des éclats tout petits. Ils prenaient un galet qui servait de nucléus, c'est-à-dire qui servait à obtenir des petits éclats. Et ils fabriquaient des éclats très petits, en moyenne de 2 cm, 3 cm de côté, avec un tranchant qui devait servir à racler la viande, à récupérer la viande sur les os des grands herbivores. Et on peut dire que leur but, c'était deux outils très simples, le chopper, ou le chopping tool, enfin le galet aménagé pour désarticuler les carcasses dans le mur, et ce petit clat de silex pour couper les débris de viande qui restaient sur des os, car ces hommes étaient toujours des charognards. Il y a 1 800 000 ans, au port de l'Europe, et on peut dire que la Géorgie a été la plaque tournante d'où a été peuplée plus tard et l'Asie et l'Europe.
Ce sont les premiers hommes non africains.
Oui, c'est la première fois que l'homme quitte le berceau. Bon, il ne devait pas y avoir qu'à Manissi, on n'a trouvé que celui-là, mais on peut dire que très tôt, l'homme a quitté l'Afrique. 2 millions d'années à Iron, en Palestine, 1 810 000 ans, en Géorgie. Et ce n'est que beaucoup plus tard, un peu plus tard, disons, qu'il arrivera sur les rivages méridionaux de l'Europe.
Alors justement, nous avançons, nous arrivons en Europe et plus particulièrement en Espagne. Alors là, il y a 3 sites intéressants dont vous allez pouvoir nous parler dans un instant, où là, il semble qu'il y ait un débat puisqu'on n'a pas réellement trouvé de restes humains sur ces sites.
Ah oui, il y a récemment, alors c'est encore très récent, vous voyez, au cours de l'été dernier et de l'été d'avant, depuis 2007, donc depuis le mois de fin juin 2007, on connaît un hominidé très ancien en Europe qui date d'environ 1 200 000 ans. C'est le site de la Chima de l'éléphante en Espagne, dans la Sierra de Tatapuerca, à 10 km environ, à l'est de la ville de Burgos, dans la province de Castillon. D'ailleurs, en ce moment même, au Musée de l'Homme, il y a une exposition magnifique qui présente l'original, c'est incroyable que les Espagnols nous l'aient prêté, l'original d'une mandibule humaine qui date de 1 200 000 ans. Et c'est aujourd'hui le plus ancien reste humain actuellement trouvé en Europe. Parce que la Géorgie, ce n'est pas encore l'Europe, parce qu'on a préféré mettre la frontière entre l'Europe et l'Asie au niveau du Grand Caucase, mais on l'aurait mis au niveau du Petit Caucase, la Géorgie, son Europe. Les Géorgiens prétendent qu'ils sont européens. Alors, pour dire, c'est vrai que l'homme était présent en Géorgie il y a 1 800 000 ans, c'est beaucoup plus tard qu'il arrive sur les rivages milieux de l'Europe, mais le site le plus ancien connu sur les rivages milieux de l'Europe, et pas en Espagne, il est en Italie. C'est le site de Pironor, qui a été découvert sur la côte adriatique, un peu en aval, au sud du Monte Gargano. Et là, des collègues comme Marta Arzarello ont mis en évidence, associés à des faunes qui datent de 1 400 000 ans, des outils taillés, ce sont des petits éclats, du nucléus, une industrie toujours pareille, des petits éclats non retouchés qui devaient servir à découper la viande. Et nous avons, grâce au site de Pironor, nous savons que l'homme est présent sur les rivages miniers d'Europe depuis au moins 1 400 000 ans. Et puis, nous savons aussi, comme je veux le dire, qu'il était présent en Espagne, en particulier en Andalousie. Et là, c'est un grand bassin à peu près 100 km au nord-est de Grenade. Il y a un grand bassin qui est aujourd'hui désertique. C'est ce qu'on appelle le bassin d'Ors. D'ailleurs, si vous y allez, en été surtout, il vaut mieux mettre des lunettes de soleil, autrement vous êtes tout de suite ébloui. Mais il y a 3 millions d'années, 2 millions d'années, jusqu'à 450 000 ans, il y avait un immense lac. Car c'était un bassin endoréique et tous les fleuves, toute l'eau qui se déversait dans ce lac. Et puis vers 460 000 ans, le fleuve Guadalquivir, il y a eu une érosion, le fleuve Guadalquivir a récupéré l'eau du bassin d'Ors et le bassin endoréique est devenu un bassin exoréique. Et donc il n'y a plus d'eau et c'est une zone aride. Mais pendant très longtemps, il y avait un immense lac. Et vers 1 200 000 ans, il y a des hommes qui sont installés au bord de ce lac. C'était parmi les plus anciens habitants de l'Europe. Ils s'étaient installés au bord du lac, en contrebas de massifs de calcaire jurassique, riche en silex naturel. Et entre le lac et ce massif de calcaire, il y avait des marécages. Et les hommes...
Un lieu idéal pour chasser ou
pas pour chasser, pour charronner toujours. Et en effet, dans ces marécages, ils trouvaient des fois une carcasse d'éléphant en décomposition, une carcasse d'hippopotame en décomposition, et à Bancoléon, où on a trouvé par exemple une carcasse d'éléphant encore en connexion d'hippopotame encore en connexion anatomique, ou sur le Fantuano étroit, où on a trouvé une carcasse d'éléphant méridional en connexion anatomique, on a tout autour par exemple de la carcasse d'éléphant une quinzaine de tout petits éclats de silex, ils ne sont pas venus tout seuls, et des coprolites de hyènes. Et là, on voit très bien que l'homme, Bancoléon de Fantuano étroit, ce premier habitant de l'Europe, était en compétition avec la hyène géante pour avoir accès à la carcasse. Et autour de cette carcasse, on trouve quelques éclats de taille apportés par l'homme et des coprolites de hyènes. Et qui est-ce qui venait le premier? On peut penser que c'était la hyène et puis que l'homme arrivait après. D'autres peuvent penser que c'était l'homme qui venait après. Alors ça, nous pouvons le savoir, l'étudier, en essayant d'en examiner dans les ossements, de savoir si les traces des dents de hyène sont postérieures aux stries de découpage ou si les stries de découpage sont postérieures à la morsure des dents de hyène.
C'est incroyable,
c'est passionnant à faire. Mais vous savez que le préhistorien est un détective, c'est le détective du passé.
Mais alors dites-moi, Henri de Lumley, nous étions en Géorgie, il y a 1 800 000 ans, nous avons passé l'Italie, c'était 1 400 000 ans, et ensuite l'Espagne, 1 200 000 ans.
Oui,
mais entre la Géorgie et l'Italie...
Je vais parler de la France, mais je voudrais quand même terminer sur l'Espagne, parce que récemment, fin juin 2007, d'ailleurs j'ai organisé un grand colloque à Totavel sur les premiers habitants de l'Europe, et on nous téléphone depuis Burgos, pour nous dire, on vient de trouver une dent humaine dans les couches inférieures de la grotte de Chima de l'éléphante, dans la Sierra de Tepeurca, 10 km à l'est de Burgos, une dent humaine dans une couche qui date de 1 200 000 ans. Et l'été dernier, ils ont trouvé mieux. Ils ont trouvé une mandibule pas une mandibule entière, mais la partie intérieure d'une mandibule, que vous pouvez voir aujourd'hui, l'original, si vous allez visiter l'exposition à Tapperka au Musée de l'Homme. Et c'est une découverte extraordinaire. Et alors, cette mandibule est assez gracile, elle est assez archaïque, et elle n'est pas très loin, me semble-t-il, des hommes de... Tapperka, mais finalement, 1 200 000 ans, 1 800 000 ans, il n'y a que 600 000 ans de différence.
Oui, là, on sent encore que c'est le préhistorien qui parle. La question que je voulais vous poser, c'est qu'on était en Géorgie il y a 1 800 000 ans. L'Italie, nous l'avons passé, c'était 1 400 000 ans, et ensuite l'Espagne. Entre la Géorgie et l'Italie, il n'y a pas de traces de l'homme.
Depuis très longtemps, j'ai fait des fouilles dans une grotte qui s'appelle la grotte du Vallonnet. La grotte du Vallonnet est située dans le sud de la France, pas très loin de Menton, sur le territoire de la commune Roquebrune-Cap-Martin. Et en fait, on peut dire que c'est la baie de Menton. Et là, j'ai commencé des fouilles en 1961. Vous voyez, je venais juste de me marier. Et en 1961 ou en 1962, j'ai découvert un petit éclat de silex bien taillé avec des faunes très anciennes. Alors, on ne pouvait pas bien savoir l'âge à l'époque parce qu'on n'avait pas les mêmes méthodes de datation. Mais nous savons aujourd'hui que c'est daté entre 1 million et 1 million 70 000 ans. Et d'aujourd'hui, depuis, on a fait beaucoup de fouilles. Cette grotte, on a trouvé une centaine d'outils mêlés à des ossements d'animaux très anciens, très archaïques, qui datent de entre 1 million et 1 million 70 000 ans. Alors, c'est bien daté. C'est daté par le paléomagnétisme, c'est-à-dire par l'étude du champ magnétique terrestre. C'est étudié par des datations absolues, comme on appelle, par exemple, la méthode de la résonance électronique de spin. On connaît bien l'âge de ce site. Et ces outils taillés sont incontestablement associés à ces faunes taillées. Donc, dès 1961, j'ai pu dire que l'homme était arrivé en Europe tôt. Mais à ce moment-là, beaucoup de chercheurs l'ont mis en doute. Ils se disaient, c'est pas possible que l'homme soit si vieux en Europe, ça doit être mélangé, ou c'est pas taillé. En fait, maintenant, plus personne ne le met en doute, puisque
vous avez les outils
beaucoup de sites, il y a beaucoup d'autres sites, etc. Et on peut dire que la Grotte du Vallonnet n'est plus le plus vieux site, parce qu'à l'époque c'était le plus vieux site actuellement en Europe, n'est plus le plus vieux site, mais un des plus anciens sites qui a livré des outils taillés en Europe dans un contexte stratigraphique bien daté. Alors la Grotte du Vallonnet, c'est une toute petite grotte, si vous venez la voir, vous verrez, c'est une petite grotte perchée à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais à l'époque, la mer était plus proche de la mer parce que depuis, le continent est monté.
Oui.
Le continent est monté de 100 mètres, donc elle devait être à quelques mètres du bord de mer.
20,
d'ailleurs,
mètres,
à la base, il y a une plage marine, une plage de sable marin qui est très riche en ossements de poissons, en mollusques marins. Et alors, ce qui est extraordinaire, par exemple, on trouve des palais de diodons, Chilogmiterus, à Cantodès. Ce Chilomitheus à Cantodès, c'est ce qu'on appelle le diodon, c'est-à-dire le poisson globe, qui vit dans les mers tropicales. Et la température de la mer devait être en moyenne, sur le littoral, devait être en moyenne de 26 degrés. Vous voyez, beaucoup plus chaude que la mer actuelle, qui est dans la région de Nice, est aujourd'hui 19 degrés. Et la température moyenne de la mer, et ça pouvait aller jusqu'à 30 degrés. Donc une température plus chaude. Puis après, le climat s'est refroidi, et la steppe s'est installée, et la mer s'est retirée, et la grotte, à ce moment-là, s'est remplie avec des dépôts continentaux. Et cette grotte a été surtout occupée par des grands carnivores. Par exemple, la panthère. Il y avait même une nurserie de panthères, parce qu'on trouve plein de dents de lait de panthères. Et il y avait aussi le tigre à dents de sabre habitait la grotte.
Des
loups aussi ont habité la grotte. Et puis, il y a des hyènes qui venaient après récupérer les charognes qui pouvaient traîner dans la grotte. Alors la hyène, ça a été terrible parce qu'elle a cassé plein d'ossements. Et elle a broyé beaucoup d'ossements. Il y a l'ours qui venait dormir bien dans la grotte. L'ours de Néningère, un ancêtre de l'ours des cavernes. Alors, donc des carnivores qui habitent la grotte. De temps en temps, des hyènes qui viennent pour récupérer des charognes. Puis alors, il y a un animal qui nous a embêté beaucoup, qui a abîmé beaucoup d'os, c'est le porc-épic. Le porc-épic a rangé plein d'ossements. Et puis, en l'absence de ces grands carnivores, l'homme venait dans la grotte. Alors, pourquoi venait-il? Où venait se réfugier? Il a sans doute apporté des quartiers de cerfs qu'il avait récupérés, mais aussi il venait peut-être récupérer des charognes abandonnées par les grands carnivores à son tour. Et on peut dire que cette grotte, qui a été surtout l'habitat de grands carnivores, a été occupée à intervalles plus ou moins réguliers par l'homme en l'absence des grands carnivores. Et l'homme, à cette époque-là, était encore un charognard. Il n'aménageait pas son habitat, il n'avait pas domestiqué le feu. C'était une forme très primitive, avec une industrie qui est très proche de ces industries les plus anciennes, très proche de celle de Gouna, très proche de celle de Fedjez, très proche de celle de Manissi, très proche de celle de Banco-Léon, très proche de celle de Pyrénées de 1,4 million, très proche de celle de la Chima de l'Éléphant, où on a trouvé cette mandibule qui date de 1,2 million aussi. C'est ce que je vous appelle le pré-Oldowayen.
Donc on y retrouve des éclats et les fameux choppers dont vous
voilà,
parlez souvent.
Des choppers, des éclats et puis des nucléus qui permettent d'obtenir les éclats.
Henri de Lumley, ici s'achève la première émission d'une série de trois consacrée aux 10 lieux de l'histoire. Nous en avons évoqué 3 en votre compagnie. Nous invitons nos auditeurs internautes à télécharger sur le site de Canal Academy les 2 autres émissions où vous nous emmenez en France et en Chine visiter plusieurs sites archéologiques. Merci, professeur de Lumley, et je vous dis à tout de suite, auditeurs internautes, pour poursuivre le récit passionnant de notre invité sur canalacademy.com.